Bonjour. Nous avançons dans le voyage à travers les règles de discernement des esprits dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Cette série de 16 épisodes est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Ces entretiens en anglais se retrouvent sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ». C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. Règle numéro 3 de la consolation spirituelle. J'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme et par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur et en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. La consolation fait encore répandre des larmes qui porte à l'amour de son Seigneur l'âme touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ notre Seigneur ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. Enfin, j'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité et toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Dans le livre « Récit d'un pèlerin russe », l'auteur, anonyme, écrit « Parfois, il y avait comme un bouillonnement dans mon cœur et une légèreté, une liberté, une joie si grande que j'en étais transformée et me sentais en extase. Parfois, je sentais un amour ardent pour Jésus-Christ et pour toute la création divine. » Parfois, mes larmes coulaient d'elles-mêmes par reconnaissance pour le Seigneur qui avait eu pitié de moi, pécheur endurci. C'est une très belle introduction à la discussion d'aujourd'hui, parce que ce que décrit le pèlerin russe est exactement ce dont parle Saint Ignace dans la troisième règle que nous venons d'entendre et qu'il nomme la consolation spirituelle. Les moments de consolation sont très spéciaux. Ils donnent de la force, ils nourrissent. Ils apportent espoir et énergie pour continuer la route. Lisons une autre description de cette expérience de consolation, extraite du journal spirituel de Raissa Maritain, l'épouse du philosophe catholique français Jacques Maritain. Leur belle histoire de conversion mérite d'être racontée. Jacques et Raissa étaient tous deux étudiants à la Sorbonne. Ni l'un ni l'autre n'avaient la foi. Ils avaient tous les deux été élevés dans une famille non-croyante, et leurs professeurs, bien sûr, leur enseignaient que le monde n'a pas de sens, que la vie est absurde, parce que c'était le courant de pensée de l'époque. Et elle écrit qu'un jour qu'ils se promenaient dans un des jardins de Paris, ils décidèrent de prendre au sérieux leurs professeurs et que, si la vie n'avait pas de sens, qu'ils ne la vivraient pas. Une sorte de pacte. Elle écrit dans son essai « De mœurs divines » « Nous décidâmes donc de faire, pendant quelque temps encore, confiance à l'inconnu. Nous allions faire crédit à l'existence, comme à une expérience à faire, dans l'espoir qu'à notre appel véhément, le sens de la vie se dévoilerait, que de nouvelles valeurs se révéleraient si clairement qu'elles entraîneraient notre adhésion totale et nous délivreraient du cauchemar d'un monde sinistre et inutile. Que si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide. Le suicide avant que les années n'aient accumulé leur poussière, avant que nos jeunes forces ne soient usées. Nous voulions mourir par un libre refus s'il était impossible de vivre selon la vérité. » Et pendant cette année de confiance à l'inconnu, grâce à un de leurs professeurs, Henri Bergson, pour la première fois, ils découvrirent qu'il était possible d'atteindre des vérités réellement objectives. Cette découverte les mena à saint Thomas d'Aquin, puis par le témoignage d'authentiques catholiques à la foi et à l'Église catholique, les délivrant de ce qu'elle appelle le cauchemar d'un monde sinistre et inutile. Raissa développa par la suite une vie de prière très riche. Après sa mort, son mari publia son journal spirituel. Dans le deuxième extrait que je vais vous lire, datant du 27 juin 1916, elle vient d'assister à la messe du matin et finit par rester en prière pendant 3 heures. Elle décide de commencer par prier les litanies du Sacré-Cœur de Jésus, mais elle ne réussit pas à dépasser la première invocation. « Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de nous. » Voici ce qu'elle écrit dans son journal. 27 juin, messe et communion. Entre 9h et 12h, oraison presque ininterrompue. D'abord sans considération précise, puis essayant de dire les litanies du Sacré-Cœur. À la première invocation, Kyrie Eleison, obligé de m'absorber, l'esprit arrêté sur la personne du Père, impossible de changer d'objet. Suavité, attrait, jeunesse éternelle du Père Céleste, tout à coup sentiment aigu de sa proximité, de sa tendresse, de son amour incompréhensible qui le pousse à demander notre amour, notre pensée. Vivement ému, je pleure des larmes très douces et je prie le Père Céleste de vouloir bien agréer tout le temps que je pourrais donner à l'oraison pour compenser l'oubli de tant d'autres. Joie de pouvoir l'appeler Père avec une grande tendresse, de le sentir si bon et si proche de moi. Jamais encore je n'ai senti cela, et ce fut tellement imprévu et soudain. C'est très intime, très personnel, très sacré. Mais c'est ce genre d'expérience intérieure que saint Ignace décrit dans la troisième règle et qu'il nomme consolation spirituelle. Vivement ému, je pleure des larmes très douces. On aime tellement vivre de tels moments et on sait quelle force incroyable il donne. Mais revenons au texte de la règle. Vous remarquez qu'Ignace ne définit pas ce qu'est la consolation spirituelle. Il n'en donne pas une définition, il donne plutôt une liste d'expériences intérieures qui y sont associées. Et en passant à travers la liste, on acquiert une idée de plus en plus claire de ce dont il s'agit. De telle façon que quand on la vit, quand on en fait l'expérience, on est capable de la reconnaître et d'en prendre conscience, de la comprendre, donc de la discerner et de la nommer. Et c'est tout l'objectif de cette règle, que nous soyons capables de la reconnaître, de la nommer. Et évidemment, l'action à prendre dans ce cas, c'est de l'accepter de tout son cœur, de vivre pleinement l'expérience, comme le fait Raïssa ou comme le fait le pèlerin russe, et de s'en nourrir, de s'en fortifier. Ignace dit « J'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. » On voit ça dans l'expérience vécue par Raïssa. Tout à coup, sentiment aigu de sa proximité, de sa tendresse, de son amour incompréhensible, écrit-elle. Et l'âme est brûlante de l'amour de Dieu. Supposons que je consacre 20 minutes par jour en prière avec les Écritures. Aujourd'hui, je prie avec le passage de la pêche miraculeuse au chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Je m'applique, mais je ne sens pas grand-chose au début de ma lecture. Mon esprit est un peu distrait. Puis j'arrive au moment où les yeux de Pierre s'ouvrent devant l'abondance de poissons et qu'ils réalisent que le Christ est Dieu. Ils sont dans la barque qui déborde de poissons, presque sur le point de chavirer. La scène est intense. Il tombe à genoux devant le Christ et dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Je ne peux rester si proche de toi. » Jésus ne discute pas avec lui. Il dit simplement « Sois sans crainte. » Et il lui confirme sa mission de pécheur d'homme. En lisant ce passage pendant mon temps de prière, je suis touchée, émue. Mon cœur s'enflamme dans l'amour de mon Créateur et Seigneur. Mon temps de prière, qui avait commencé très froidement, se termine par une belle expérience de consolation spirituelle dont je sors plein de force et d'énergie. Tous, nous avons vécu des moments de grâce semblables, des moments de consolation spirituelle. C'est le terme utilisé par Ignace. Il y a une deuxième partie à cette expérience, directement liée à la première. Quand l'âme, le cœur, sont remplis de l'amour du Créateur et Seigneur, quand on sent l'ardeur de cet amour, alors, dit Ignace, l'âme en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. Il existe parfois, souvent, une tension en nous, entre d'une part l'amour de Dieu que nous sentons bien réel, notre désir profond de vivre une vie d'amour pour lui, et d'autre part, d'autres attirances qui semblent tout aussi réelles, une occupation qui nous passionne, une relation importante pour nous, un divertissement qu'on sait pourtant qu'on devrait laisser tomber. Il y a en nous cette lutte entre l'amour du Créateur et l'attirance pour les choses créées et les créatures. Quand le cœur s'enflamme et se vivifie dans l'amour de Dieu, toute cette tension se dissout. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'aimer les choses créées ou les créatures, mais on les aime différemment. On les aime en fait de la meilleure manière possible, c'est-à-dire dans le Créateur et Seigneur. Le père Gallagher raconte l'histoire d'un jeune homme en pleine période de discernement entre le mariage et la prêtrise. Il trouvait le dilemme très difficile. Il y avait dans sa paroisse une chapelle d'adoration perpétuelle. Il y était ce matin-là, tôt, pour une heure dans le calme. Il n'y avait que lui et une autre personne devant le Saint-Sacrement. Et à un certain moment, un sentiment très réel de la présence de Dieu devant lui, dans l'Eucharistie, est monté en lui. Et il a été envahi par une conscience profonde de l'amour infini de Dieu pour lui. Dans la joie, la paix, la chaleur de cet élan, il a senti ces mots se former sans effort, sans contrainte. Seigneur, tout ce que tu voudras, que ce soit le mariage ou la prêtrise, dis-moi simplement et je ferai selon ta volonté ce que tu m'indiqueras. C'est là que saint Ignace veut en venir. Ces expériences de consolation spirituelle sont des moments où on sent la chaleur de l'amour de Dieu et où tout le reste n'existe qu'à l'intérieur de cet amour, que comme réponse à cet amour. Ce sont des moments privilégiés, à chérir, des cadeaux de Dieu. Et ensuite, Ignace parle de larmes. La consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur, l'âme touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ notre Seigneur ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. Les larmes peuvent exprimer différents états d'âme, la colère, l'amertume, le déchirement. Mais ici, on parle de larmes associées à l'amour de Dieu. Vous vous souvenez de cette femme dont nous parlions la dernière fois qui se réveille préoccupée par son rendez-vous chez le médecin ? Elle se dirige vers la cuisine et son regard croise la plaque avec les pas sur le sable. Et immédiatement, son moral remonte parce qu'elle sait que le Seigneur est avec elle. Et des larmes perlent à ses yeux. Une très belle expérience de consolation spirituelle qu'on a tous certainement vécue un jour ou l'autre. On connaît ces larmes de consolation dont parle Ignace. Et on bénit le Seigneur quand ça arrive, car on sait toute la force qu'elles apportent. C'est la consolation spirituelle. Ce sont aussi des larmes de regret pour nos péchés. La femme au chapitre 5 de l'évangile de Luc, qui entre dans la maison du pharisien, ne dit pas un mot, mais s'installe aux pieds de Jésus pour les baigner de ses larmes et les sécher avec ses cheveux. On sent que ce sont des larmes de consolation, l'expression physique dans le corps de l'âme qui sait, peut-être pour la première fois, qu'elle est acceptée, comprise, aimée, guérie, libre de commencer une nouvelle vie loin du péché. Et cette manifestation peut aller de la larme douce qui pointe au coin de l'œil jusqu'au torrent de larmes qui ruisselle jusqu'à pouvoir laver les pieds de Jésus. Et effectivement, la consolation spirituelle varie en intensité. Ça peut être un doux réconfort de l'âme, ou bien un soulagement et un encouragement fort. Et les larmes peuvent exprimer ces différents degrés d'intensité. Raïssa dit « Vivement émue, je pleure des larmes très douces. » Avec beaucoup de respect pour le vécu qu'elle décrit, on peut probablement dire que c'était intense. Donc la consolation varie en intensité. Elle s'accompagne, par contre, toujours de bienfaits, même si elle varie en intensité. Et elle varie aussi en durée. Pour la femme qui marche vers sa cuisine, c'est juste pour un bref instant, une larme au coin de l'œil, puis l'expérience passe, mais elle laisse ses bienfaits. Pour Raïssa, c'est 3 heures en prière. Pour d'autres, la consolation pourrait même durer plus longtemps, des jours, pendant lesquels le réconfort de l'amour de Dieu reste bien présent et les larmes montent facilement. Donc oui, la consolation spirituelle varie en intensité et en durée. Ignace parle ensuite de toute augmentation d'espérance, de foi et de charité. C'est très concret. Je prie chaque matin pendant 20 minutes avec la parole de Dieu. J'aime cette habitude, je sais combien c'est bénéfique, mais ces derniers jours, mes séances sont difficiles, arides. Et ce matin, je me lève, je m'installe là où j'ai l'habitude de prier, je commence. C'est dur, il ne se passe rien. Tout en moi me dit que ça va être encore aride, que je vais être fidèle à mon engagement, mais ça va être comme ces derniers temps. Disons que la lecture du jour est un extrait du chapitre 14 de Jean. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Je lis les versets, rien ne me parle. Je les relis et cette fois, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. » Croyez en moi, les mots me touchent et les soucis qui m'occupent ces derniers temps sont d'une certaine façon sanctifiés. Je me sens plus léger et je me surprends à penser « Je suis content d'être ici. Seigneur, il y a d'autres choses que tu veux peut-être me faire comprendre. » Un espoir né en moi, c'est cette augmentation d'espérance dont parle Ignace qui accompagne la consolation. Augmentation de foi. Prenons un autre exemple. Je suis à la messe le matin en semaine, plein de bonne volonté, de bonnes intentions. Même si je suis un peu fatigué et distrait et que j'en perds des bouts, on arrive à la consécration et le prêtre prononce ces mots. « Ceci est mon corps », en élevant l'hostie. Soudain, mon attention est attirée et je réalise à quel point je suis convaincu que l'hostie consacrée est vraiment la présence vivante de Jésus-Christ, Dieu vivant devant moi. Et j'en suis tout ému. C'est une augmentation de foi. J'ai toujours cru dans le pain vivant, mais dans cette expérience de consolation, j'ai ressenti une augmentation réelle de ma foi. Et une augmentation de charité, d'amour. Il s'agit des moments où je sens la chaleur de l'amour de Dieu et en Dieu l'amour de mon prochain. À d'autres moments, je ne le sens peut-être pas autant, mais dans les périodes de consolation, je le sens d'une manière spéciale. Si je prie par exemple avec le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En lisant ce passage, je me sens particulièrement touchée. Je me sens attirée, portée vers cette idée. C'est ce que je désire vivre. Je vois dans cet amour une source d'énergie et de joie. C'est l'augmentation de charité dont parle Ignace dans la troisième règle. Et pour finir, Ignace parle de toute joie intérieure, c'est-à-dire qui appartient au domaine de la spiritualité. Toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut. Monseigneur Ronald Knox, un prêtre anglican converti au catholicisme, qui a accompli de grandes choses en tant qu'aumônier à l'université d'Oxford et à travers ses écrits, en particulier sa traduction de la Bible, et bien d'autres choses encore, raconte dans sa biographie comment pendant son premier mois dans l'Église catholique, il courait littéralement à l'Église, mu par un désir fort, une attraction irrésistible de se tenir en prière devant le Saint-Sacrement. De nombreuses années plus tard, un évêque témoigna qu'il n'oublia jamais l'idée de ce prêtre en prière, l'image d'une personne amoureuse de Dieu, une joie intérieure dans les choses célestes, dit Ignace, qui élève le cœur, un magnifique appel à l'élévation de l'âme, un élan vers ce qu'il appelle les choses célestes et le salut. Toutes ces choses célestes, la prière sur les Écritures qui comble et nourrit, l'impatience d'aller à la messe, le sacrement du pardon qui renouvelle profondément, la réjouissance dans la vocation, le bonheur dans le service de Dieu. Voilà les choses célestes vers lesquelles nous sommes attirés en temps de consolation spirituelle. Dans l'expérience de la consolation, dans la joie qu'elle procure, l'être tout entier est attiré, désire ardemment, aspire à toutes ces choses célestes qui rapprochent de Dieu et qui concernent le salut de l'âme. Ignace conclut la règle en indiquant que la consolation tranquillise l'âme et la pacifie dans son Créateur et Seigneur. Exactement le contraire de ce que fait l'ennemi qui la trouble par des raisonnements faux. Le but de saint Ignace quand il décrit ses expériences spirituelles heureuses et réjouissantes et de nous donner les moyens de reconnaître quand nous sommes en consolation. La description détaillée des expériences intérieures associées à la consolation nous permet de comprendre ce qui se passe en nous, de reconnaître la consolation et de la nommer. N'oublions pas les trois étapes du discernement : prendre conscience, comprendre, agir en se décidant pour Dieu. Nous sommes maintenant capables de reconnaître la consolation quand Dieu nous en fait grâce. Et nous verrons que ce sera précieux pour comprendre les autres règles. Revenons brièvement au tout début de la troisième règle, à sa courte introduction, de la consolation spirituelle. Deux mots, consolation spirituelle. Consolation signifie élèvement de l'être tout entier. Et consolation spirituelle signifie élèvement de l'être tout entier dans sa relation avec le Seigneur, au niveau de sa vie spirituelle, de sa foi. Raïssa vit une grande joie dans la tendresse du père, une grande proximité avec lui. L'homme à la messe ressent un élan de l'âme et une foi renforcée au moment de l'élévation du Saint-Sacrement. Ce sont des expériences d'élévation de l'être, de joie, d'espoir, de bonheur, au niveau de notre relation avec Dieu, dans le domaine spirituel. C'est de cela que les règles traitent. Parce qu'il existe aussi ce qu'on pourrait appeler des expériences de consolation non spirituelles. Cela ne veut pas nécessairement dire que ce sont de mauvaises expériences de consolation. Il y a des consolations non spirituelles qui sont très saines. Par exemple, vous faites de l'exercice physique et vous vous sentez bien. Vous vous extasiez devant la beauté d'une scène de la nature. Le temps passé avec des amis, l'amour entre les époux, c'est très beau. On peut à peine les qualifier de non spirituels, car on se sent tellement proche de Dieu quand on vit ces expériences. Une tâche à faire, nous y consacrons de l'énergie et le résultat est à la hauteur de nos efforts et nous sommes submergés par une vague de bien-être. Et on pourrait continuer avec d'autres exemples. La liste des joies naturelles que Dieu met dans notre vie est infinie. Elles sont très belles, elles sont des dons de Dieu, mais elles ne sont pas directement associées à notre relation à Dieu. Elles sont non spirituelles. Ignace, lui, parle spécifiquement de consolation spirituelle. Il est important de comprendre la différence entre les deux. La consolation non spirituelle est un sentiment magnifique qui découle de bonnes expériences, mais ce n'est pas nécessairement ce sur quoi on veut s'appuyer pour discerner ce qui se passe dans notre relation avec Dieu. Donc, comprendre ce qui est du domaine de la spiritualité et ce qui ne l'est pas est critique. Parce que les règles dont nous discutons ici s'appliquent au domaine spirituel. Ceci étant dit, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la consolation spirituelle est un don de Dieu qui accompagne fréquemment une expérience de consolation non spirituelle. L'être humain est unique, unifié, non cloisonné, et bien souvent les deux vont de pair. Essayons de mieux comprendre ce lien entre le spirituel et le non spirituel à partir d'un exemple tiré de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une expérience qu'elle a vécue dans le dernier mois de sa vie. Elle se trouve dans le jardin du Carmel avec sa sœur Pauline, qui est aussi carmélite. C'est d'ailleurs sa sœur qui nous raconte cet épisode. Laissons-la raconter. En descendant les marches, elle vit, elle parle de Thérèse, elle vit à droite, sous le néflier, la petite poule blanche qui avait tous ses poussins sous ses ailes. Elle s'arrêta toute pensive à les considérer. Thérèse est charmée par ce spectacle de la nature. Avec beaucoup de respect, on peut essayer de comprendre son expérience. Thérèse vit une expérience très naturelle de consolation non spirituelle. Elle fait ce que n'importe qui d'entre nous ferait en voyant une scène semblable. On s'arrête pour savourer le tableau, de la même manière qu'on apprécierait un coucher de soleil ou un point de vue sur l'océan. Il s'agit d'un plaisir très sain devant un beau spectacle de la nature. Donc, Thérèse expérimente cette consolation non spirituelle, très naturelle. Pauline continue. Au bout d'un moment, je lui fis signe qu'il était temps de rentrer. Elle avait les yeux pleins de larmes. Je lui dis « Vous pleurez ?» Alors, elle mit sa main devant ses yeux en pleurant davantage et me répondit « Je ne puis pas vous dire pourquoi en ce moment, je suis trop émue. » Le soir, dans sa cellule, elle me dit avec une expression céleste « J'ai pleuré en pensant que le bon Dieu a pris cette comparaison pour nous faire croire à sa tendresse. Toute ma vie, c'est cela qu'il a fait pour moi. Il m'a entièrement cachée sous ses ailes. » Tantôt, en vous quittant, je pleurais en montant l'escalier. Je ne pouvais plus me contenir et j'avais hâte d'être rendue dans notre cellule. Mon cœur débordait d'amour et de reconnaissance. Un moment agréable de consolation non spirituelle devant une scène charmante de la nature. Et soudain, elle réalise que c'est l'image que Dieu utilise dans les Écritures pour montrer son amour fidèle et protecteur pour son peuple. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, dans l'évangile de Luc, ou dans les psaumes, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. À ce moment-là, des larmes de gratitude lui montent aux yeux. Cette scène de la poule devient le signe visible d'une vérité que Dieu veut révéler dans les Écritures, son amour fidèle et protecteur pour son peuple. C'est à ce moment précis qu'une consolation non spirituelle saine devient le tremplin par lequel Dieu donne une consolation spirituelle, qui est la joie de savoir que Dieu a promis son amour fidèle. À vrai dire, il y a même une étape supplémentaire dans cette expérience de Thérèse, car elle prend conscience que ce n'est pas seulement l'image de l'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi l'image de sa propre vie. Toute ma vie, c'est cela qu'il a fait pour moi. Il m'a entièrement cachée sous ses ailes, dit-elle. Et nous savons qu'elle n'a pas eu une vie facile. Elle a perdu sa mère quand elle avait 4 ans et 5 de ses frères et sœurs à un jeune âge. Son père souffrait d'une maladie grave et elle-même était très malade à ce moment-là, à quelques semaines de la mort. Et malgré tout, Thérèse est capable de voir l'amour fidèle et protecteur de Dieu dans sa vie. Elle ne peut retenir le flot de larmes si fort qu'elle n'arrive plus à parler. On a parlé tout à l'heure de différents niveaux d'intensité dans la consolation. Cette expérience de Thérèse qu'on vient d'analyser en détail dans le but d'illustrer l'enseignement de saint Ignace est certainement d'une grande intensité. Ses pleurs sont tellement abondants que c'est seulement dans la soirée qu'elle réussit à parler à sa sœur de ce qui s'est passé. Ça illustre un point important. Même si Ignace parle de consolation spirituelle dans ses règles, il est indispensable pour notre vie spirituelle de vivre des moments de consolation non spirituelle. Parce que bien souvent, c'est l'occasion, l'espace que Dieu utilise pour nous combler de sa grâce. Et la différence essentielle entre les deux consolations, spirituelle et non spirituelle, c'est le fil qui relie la consolation spirituelle au ciel. Si la consolation non spirituelle nous connecte intimement à Dieu, Thérèse dans son expérience parle d'un élan du cœur, d'un regard jeté vers le ciel, alors nous pouvons être sûrs que nous recevons aussi la grâce de la consolation spirituelle. Il faut quand même toujours se rappeler un point important. Autant on peut chercher à provoquer la consolation non spirituelle en décidant de faire des choses qui nous font du bien, je peux faire de l'exercice et je me sentirai bien, je peux écouter de la belle musique pour me sentir mieux, je peux aller marcher dans la nature, je peux passer du temps avec un ami. Il y a des choses qu'on peut faire et c'est tout à fait sain et salutaire de les faire. Non seulement pour prendre soin du don de la vie qu'on a reçu, mais aussi pour notre santé spirituelle. Donc, autant on peut provoquer la consolation non spirituelle, autant on ne pourra jamais provoquer seul la consolation spirituelle. Elle sera toujours un don, une grâce de Dieu. La seule chose qui soit en notre pouvoir, c'est d'ouvrir notre cœur pour la recevoir quand Dieu décide de nous combler. Voici donc la troisième règle. Ignace veut nous aider à nous familiariser avec les manifestations de la consolation spirituelle pour que, en revenant encore une fois à la base, ces trois étapes du discernement des esprits, nous puissions la reconnaître, la nommer et la recevoir, recevoir la lumière, l'inspiration qui l'accompagne. Comme l'homme à la messe qui reçoit pendant l'homélie l'inspiration de prier chaque matin et qui décide de le faire.